Bonjour les amis, on est de retour sur la méthode RMV, Réussir ma vie, l'émission qui vous montre comment ne pas la gâcher en la vivant pour Dieu, car c'est pour lui que nous existons. Alors on est de retour et on est trois aujourd'hui. Bonjour les amis,
Alessio, bonjour.
Adrien, et je ne vais pas citer Jonah, on est parvenu à se débarrasser. On l'a viré.
Mais non.
Jonah va se marier, toutes nos félicitations, il sera bientôt de retour et beaucoup d'autres surprises aussi. Alors on poursuit la méthode RMV, réussir ma vie un matin à la fois, s'entraîner à rester attaché à Dieu, c'est le but, c'est l'objectif. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire, nous envoyer vos retours et aussi des questions, des suggestions, des commentaires. J'étais très encouragé, je discutais cette semaine avec une personne qui me disait que grâce à la méthode RMV, elle avait pu instaurer dans sa vie quelque chose qu'elle n'était jamais parvenue à mettre en place en plusieurs années de vie chrétienne. Juste passer du temps avec Dieu, ça l'a même poussé non seulement dans la prière, dans la méditation, mais aussi à s'attacher à l'église, à devenir membre d'une église. Et à quel point ça change tout, juste de passer du temps avec Dieu. Et c'est tellement ce qu'on veut, c'est ce pourquoi on prie pour chacun de vous, juste donner du temps. C'est la base de toute relation. On a beau dire qu'on aime Dieu de tout notre cœur, mais si tu ne lui donnes pas du temps, ça dit quoi en réalité ? On a beau prononcer ce cliché, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Encore faut-il qu'elle existe, cette relation. Personne ne se contente de mots d'amour, aucun homme, aucune femme, dans aucune relation. Tu prends du temps et du temps de qualité. Et la méthode RMV est juste un outil puissant qui nous aide à vivre cette relation dans le réel, pas juste dans les mots ou l'imaginaire. Si tu es un chrétien, par définition, tu as une relation avec Dieu. Montre-moi quand tu pries. Montre-moi quand tu passes du temps plongé dans les Écritures, le jeûne, la méditation, le silence, la reconnaissance, la confession. Tu dois te poser ces questions-là sérieusement. Alors pour ceux qui ont peut-être décroché, c'est le bon moment de reprendre le train en marche. La méthode RMV, c'est vivre le chemin.
Pour moi, et c'est vrai que j'ai souvent dit ça, oui, c'est une relation et non une religion. Pourtant, force est de constater que dans mes relations, en dehors de Dieu, ben, je ne consacre pas le même temps à ces relations qu'à Dieu. Et même si j'élargis le cadre et que je parle vraiment de lorsqu'on est amoureux de Jésus, comme on l'entend souvent, oui, moi je suis un amoureux de Jésus, je suis passionné par Jésus, mais quand on est amoureux d'une personne, c'est presque une obsession en fait. C'est presque l'idée d'avoir toujours à l'esprit cette personne. Quand on dort, on rêve à cette personne, on se lève, on a envie de lui envoyer un message, on réfléchit à ce qu'on va lui dire, on réfléchit à ce qu'on va faire avec elle, comme moment de qualité qu'on a envie de passer, comme attention qu'on a envie de lui adresser. Bref, c'est comme si on a toujours cette personne-là dans notre esprit, on est comme obsédé par cette personne. Est-ce que ce serait trop fou de dire qu'on doit être obsédé par Dieu, qu'on doit être comme avoir cet amour tellement, on doit tellement être épris par Dieu qu'on pense toujours à lui?
On dit souvent que Dieu nous donne des moyens physiques pour illustrer des réalités spirituelles. Et je crois que l'aspect relation, tu vois, tu parles ce coup de foudre, le fait d'être amoureux, ce que ça provoque à l'intérieur de nous, est, je pense, une image réelle de ce que nous devrions rechercher à vivre dans cette relation avec Dieu. T'emploies un mot fort, le mot obsession. Je dirais passion. Tu vois, cette passion qu'on devrait alimenter, ce feu. Tu sais, le livre de... vous êtes tiède, vous n'êtes pas bouillant. C'est ça, c'est le fait d'être passionné par Dieu, par sa présence, par cette relation. Et c'est ce qu'on cherche à communiquer à toute la communauté RMV grâce à cette méthode.
C'est une image réelle, comme tu dis, mais c'est en plus de ça une image biblique. On retrouve aussi dans la Bible plein de passages où Dieu compare l'amour qu'il a pour nous à une relation entre un homme et une femme. Je pense au livre des Cantiques des Cantiques ou même au livre du prophète Osée. Et c'est tellement fou de se dire que l'amour de Dieu est encore plus fort que cet amour-là qu'on peut vivre, expérimenter. C'est magnifique.
Peut-être que même le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est de juste confesser qu'on n'est pas dans cette relation avec Dieu. Qu'on s'est voilé la face, que, en fait, on n'est pas passionné, comme on le dit, de Dieu. On n'est pas amoureux de Dieu, comme on l'entend souvent. Peut-être que ça démarre déjà par cet acte de repentance sincère devant Dieu et de demander, Seigneur, pardon, j'ai juste envie de cultiver réellement cette relation avec toi, dès à présent, avec cette méthode RMV.
Ouais, je pense qu'il faut pas abandonner, il faut pas se dire bon ça a pas marché pour moi. Je crois qu'il y a là un outil qui est donné. Peu importe, tu l'as fait une fois, deux fois sur cette semaine, mais tu reprends. C'est la vie chrétienne, c'est cette relation-là que tu vas cultiver toute ta vie.
J'entends souvent autour de moi, et même moi je l'expérimente très souvent, des moments où, je pense qu'on l'a tous vécu, où c'est comme si notre cœur était tiède, notre cœur était desséché face au fait de passer du temps avec Dieu. On me dit souvent, mais il y a un moment donné où je me suis éloigné de Dieu parce que j'avais plus cette même soif, ce même goût, cette même envie à passer du temps avec Dieu, tout ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de vouloir passer du temps avec Dieu, cette envie, ce goût-là à aimer passer du temps avec Dieu, ne viendra pas tout seul, comme ça, du jour au lendemain. Et c'est vraiment en pratiquant les disciplines qu'on va trouver ce miracle qui est que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu as envie de te rapprocher encore plus de lui, parce que Dieu, littéralement, est un vivier, et celui qui est capable, dans ton désert spirituel, dans ton cœur qui est si aride, il est celui qui fait jaillir des sources d'eau vive et qui est capable de redonner vie à ce qui est mort ou à ce qui est desséché dans ton cœur.
Ouais, et lorsque tu parles de ça, ça me fait vraiment penser à cette relation qu'on a dès le départ avec Dieu, quand on le rencontre, comme ce coup de foudre où tout est beau, on ressort des choses au culte, dans la louange, ouais, j'étais dans la joie, j'ai pleuré, je ne sais même pas expliquer pourquoi, et même j'ai envie, naturellement, spontanément, de passer du temps à lui dire juste des mots, avec mes faibles mots. Et puis, arrive un temps où c'est comme si on ne ressent plus rien, on n'est plus dans l'émotion, dans les sensations, et on se dit que Dieu n'est plus là, qu'il y a quelque chose qui a changé, et c'est là où il y a un moment charnière, je crois, dans notre vie chrétienne, où on n'est plus dans ce coup de foudre, mais qu'on doit apprendre à alimenter cette relation. Et oui, ça demande une décision. C'est plus aussi spontané, naturel. Il n'y a plus peut-être de sensation parce que Dieu a juste envie de nous faire grandir, tout simplement.
Moi, je pense qu'à cette période, tu vois, que tu es en train d'évoquer, le danger, le risque, même le mensonge, c'est de se dire, c'est d'abandonner, en fait, de s'auto-justifier, ouais. De trouver des On entend des phrases du genre « mais moi, je prie en faisant la vaisselle ou je prie dans la voiture seulement et ça me suffit. » Et on est juste en train de justifier le fait que, finalement, on met pas Dieu à la première place dans notre vie. Et je pense qu'il faut vraiment lutter et ne pas accepter ce genre de mensonge. S'il y a une médiocrité spirituelle dans notre vie, le premier pas, c'est de le reconnaître. Et pour pouvoir changer cet état de fait, se saisir de cette méthode ou d'une autre, mais de se dire, mais ma vie chrétienne ne peut pas se limiter à ça. L'impact de ma vie dépend de cette relation, de cette connexion à la source, parce que la source, c'est Dieu, et quand tu n'es pas connecté à cette source-là, bah, tu es connecté à d'autres sources, éventuellement à ta propre source, tes propres forces. Et donc aujourd'hui, on regarde à l'étape qu'on a appelée dans la méthode lecture pépite, c'est-à-dire lecture de livres chrétiens. Pépite parce que oui, il y a des ouvrages qui sont vraiment comme des petits trésors, qui sont, on va le voir, je pense vraiment des moyens de grâce pour renforcer notre foi, notre compréhension de l'amour de Christ et de son plan pour nous aussi. J'en ai fait l'expérience tellement de fois et dans plusieurs saisons de ma vie, j'avais hâte de partager ça avec vous et je crois que ça peut faire une différence. Alors soyez bien à l'écoute. Peut-être en préambule, rappeler, quand on parle de lecture, de livres, qu'évidemment la Bible est le livre le plus important, il doit le rester, il doit rester une priorité absolue pour un chrétien. Si vous n'avez l'occasion de ne lire qu'un seul livre, alors la question ne se pose même pas, lisez la Bible. C'est aussi pour ça que la lecture de la Bible arrive en tout premier dans la méthode. Mais l'idée ici est de montrer que dans le plan de Dieu, dans sa volonté pour notre croissance spirituelle, pour notre connaissance de Christ, notre édification, pour grandir, eh bien, d'autres livres, d'autres auteurs que les auteurs de la Bible peuvent et doivent contribuer à notre croissance.
Et cette pensée, elle est en fait biblique. Lorsqu'on voit Paul qui s'adresse à Timothée, dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 13, il dit « Quand tu viendras, apporte les livres sur tous les parchemins. » Et on peut évidemment penser que sa recommandation est des plus appropriées pour d'autres domaines littéraires que juste la lecture des écrits de l'Ancien Testament, mais qu'il faisait également mention de certains ouvrages de choix, par exemple des livres d'histoire juive, d'exégèse et d'explication de la loi et des prophètes, et peut-être même quelques auteurs païens dont il faisait des citations dans ses sermons et ses lettres.
Alors, je vous communique mon état d'esprit quand on parle de livres chrétiens et pourquoi je dis que ça contribue à notre croissance. Quand on pense à l'Église au sens large, on doit se souvenir que l'Église est composée de tous les croyants du monde et de tout temps. L'Église, la vraie, est celle qui sera au ciel pour l'éternité. Maintenant, nous vivons l'Église concrètement au sein d'une Église locale. Dans cette Église locale, je bénéficie des dons des autres croyants de mon Église locale. Et c'est super, mais ça ne doit pas me faire oublier qu'il y a tout un corps de Christ au sens large, des hommes et des femmes à qui Dieu a fait des dons particuliers et même certains qu'il a choisis pour bénir au-delà de leur seule église locale, mais influencer le corps de Christ au sens large. On a vu ça, l'influence d'hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire. C'est vrai pour les pasteurs, mais aussi on peut étendre ça à certains artistes, des prédicateurs, des évangélistes qui ont plus d'influence que leur stricte église locale. Et c'est dans cette optique-là que j'ouvre un livre écrit par certains de mes auteurs préférés, qui sont des hommes remplis du Saint-Esprit, qui sont peut-être à l'autre bout du monde, qui ne parlent pas la même langue que moi, mais qui m'édifient quand même, et duquel je tire des bénédictions que Dieu a prévues dans le cadre de son Église, de son corps, avec des membres différents qui s'édifient les uns les autres. Donc, ne pas le faire, c'est comme me couper quelque part, c'est comme me priver de la bénédiction, de la richesse de l'Église au sens large du terme. C'est comme passer à côté de ressources inestimables que le Seigneur a données dans son corps et pour l'édification de son corps. Il n'a jamais été dit qu'on peut seulement profiter des dons des membres de mon église locale, mais il y a aussi d'autres dons qui sont donnés au corps de Christ au sens large et desquels je ne veux pas me priver moi-même. Alors bien sûr qu'il faut énormément de prudence et de sagesse, on va revenir là-dessus, c'est pas parce qu'on parle de livres chrétiens ou d'auteurs chrétiens que c'est forcément bon pour notre foi, il faut examiner toute chose, on va en reparler. Mais, vous savez, j'ai déjà entendu des chrétiens, et ça correspond peut-être à une certaine époque, mais qui se sentent ou qui se pensent spirituels en disant « Moi, je ne lis pas de livres chrétiens, c'est juste la Bible, c'est juste moi et la Bible, ma méditation, ma relation avec le Saint-Esprit, et je n'ai pas besoin d'autres livres chrétiens. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de réflexion.
Ouais, et c'est vrai, il faut le souligner, il y a cette dimension, mais c'est très orgueilleux en réalité, derrière une apparence de spiritualité. En fait, il faut vraiment reconnaître que les autres ont aussi la même Bible et peut-être ils ont pu comprendre des choses que je n'ai pas compris ou vues. Ça m'arrive tout le temps quand je lis des auteurs chrétiens, mais je me dis comment j'ai pu passer à côté de ça. J'ai lu la Bible, la même Bible qu'eux, et pourtant je suis passé à côté de ces pépites-là. Et le fait de lire d'autres auteurs chrétiens m'aide à vraiment ouvrir les yeux là-dessus. Donc clairement, vouloir se débarrasser de tout ce qui n'est pas la Bible, c'est vraiment une marque d'orgueil. Et je pense à cette citation de Charles Spurgeon, qui est vraiment très forte, qui dit « Celui qui ne veut pas utiliser les pensées issues du cerveau d'autres hommes prouve qu'il n'a lui-même pas de cerveau. »
Alors, on parle de livres chrétiens, d'auteurs chrétiens. Je fais juste une petite parenthèse. J'évite d'employer le terme « livre chrétien » parce que je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. C'est un peu comme parler de musique chrétienne. Il n'y a pas de musique chrétienne. La musique, c'est de la musique. Un accord de Do, c'est un accord de Do. Il n'y a pas d'accord de Do chrétien et d'accord non chrétien. C'est juste de la musique jouée par des chrétiens. Et il y a des livres écrits par des chrétiens. C'est important de faire cette nuance, même si on continue d'employer le terme livre chrétien ou musique chrétienne, mais de se rappeler de la nuance que ce sont des livres, des phrases écrites par des chrétiens, ça nous permet de voir l'importance de ne pas se priver des moyens de grâce et de ne pas non plus attribuer à des livres chrétiens la même autorité normative pour notre foi que les Écritures, que la Bible. Alors, pourquoi lire des pépites, des livres écrits par des chrétiens ? Premièrement, on vient de le dire, parce que ça nous permet de bénéficier des dons des autres membres de l'Église au sens large, et puis parce que, comme tu viens de le dire, Alessio, c'est quelque part faire preuve d'orgueil que de ne pas lire des livres chrétiens. Et puis j'ajouterai troisièmement que certains livres chrétiens sont de réels moyens d'évangélisation. C'est déjà arrivé souvent juste de parcourir des livres avec des non-croyants ou même de conseiller certains livres à des non-croyants en parallèle avec les évangiles. Ça peut vraiment être une porte ouverte.
Et en parlant de livres justement qui sont de réels moyens d'évangélisation, j'ai lu il y a quelques temps un livre qui s'intitule « Qu'est-ce que tu crois ?» de Benjamin Hagen, qui est vraiment un livre destiné à ceux qui ne sont pas du tout dans la foi et qui a pour but de présenter l'évangile d'une façon très claire, très logique et très accessible. Et alors que nous le faisions lire à un groupe de frères et sœurs qui suivent un module de formation dans notre église, une sœur me confiait justement qu'elle a vraiment lu alors qu'elle ne voulait pas le lire au départ. C'est-à-dire qu'elle se disait « Mais moi, j'ai grandi dans la foi, je ne vois pas l'intérêt de lire ce livre, mais puisqu'on me le demande, je vais quand même le faire. » Donc, elle n'y allait pas de bon cœur, mais en lisant, vraiment, elle a été rafraîchie dans sa foi. Et elle a ouvert les yeux sur des notions comme la grâce qu'elle avait entendue des millions de fois dans sa vie, mais sur lesquelles elle a pu mettre des mots précis, surtout des exemples aussi précis pour mieux les comprendre. Si bien qu'elle a été tellement touchée qu'elle a voulu le partager directement à sa petite sœur de 13 ans pour lui dire « Mais il faut vraiment que tu lises ce livre parce que c'est une pépite. » Donc je crois vraiment qu'une des raisons pour lesquelles il faut lire des livres chrétiens, c'est parce que ce sont de bons outils d'évangélisation à partager autour de nous.
Je dirais aussi que lire des livres d'auteurs chrétiens, ça nous donne accès à des écrits du passé. Et ça, c'est incroyable à quel point c'est une réelle protection. Parce que quand vous regardez aux sectes qui sont issues du christianisme, comme les Mormons, les Témoins de Jéhovah ou les Branhamistes, mais s'ils lisaient tout simplement des auteurs anciens, c'est-à-dire d'avant la création de leur mouvement, ils seraient juste obligés de corriger des choses et de revenir aux doctrines fondamentales en ce qui concerne la personne de Christ, la rédemption, la grâce, les Écritures, etc. Donc les pépites sont des protections contre les dérives théologiques.
Vraiment énormément de raisons, je ne sais plus où on est, quatrième, cinquième raison, mais une des choses que j'ai observées, c'est que parfois on peut traverser des situations particulières. On fait face à des défis en tant que chrétien. Et on n'est pas forcément entouré de personnes suffisamment formées ou informées qui peuvent nous aider par rapport à des situations bien particulières. Bien sûr, il y a des gens autour de nous qui nous aiment, qui peuvent prier pour nous, qui peuvent nous soutenir. Mais quand il faut parler du défi de la dépression, du burn-out, de l'attirance envers les personnes de même sexe, du célibat, de relations de couple, relations conflictuelles, l'éducation des enfants, énormément de sujets particuliers comme ceux-là qui traitent de la vie quotidienne du chrétien. Il n'y a aucune église locale qui possède toutes les ressources en interne. Ça signifie qu'il faut de la littérature, il faut aller les chercher ailleurs, de la littérature de qualité. Et croyez-moi, il y en a dans la littérature chrétienne, c'est tellement précieux, autant pour les enseignants, pour les prédicateurs, on a souvent besoin de ressources, besoin de se former nous-mêmes, que pour ceux qui font face à des défis, qui peuvent aller directement chercher ces ressources.
Ouais, je me souviens de ce livre que tu m'avais conseillé, de Gordon MacDonald, « Reconstruire après la chute », suite à une saison compliquée de ma vie il y a quelques années, et qui m'avait vraiment accompagné justement dans ma reconstruction et fait énormément de bien.
En vrai, il y a tellement de raisons pour lire des livres pépites, des livres d'auteurs chrétiens. Je pourrais juste rajouter, par exemple, la lecture alimente des conversations intéressantes, profondes.
Avec Manon, on suit la méthode RMV, donc on lit des livres chacun de notre côté, et le nombre de fois où on échange au sujet des lectures, ça nous permet vraiment d'avoir des temps de qualité, des discussions intéressantes, profondes, qui sortent du quotidien. Est-ce que tu as bien dormi et comment va ton dos? Vous voyez ce que je veux dire? On va plus loin et on s'enrichit, on s'édifie mutuellement. Donc lire des livres pépites ouvre la possibilité d'une discussion qui va plus loin et qui nous permet de nous édifier l'un l'autre.
Ouais, c'est vraiment gentil pour le don de Manon.
Mais tu parles d'une discussion qui va plus loin, qui est profonde. Dans la même pensée, ça améliore aussi juste notre culture, notre connaissance, notre vocabulaire. Combien on a été enrichi dans notre façon de parler suite à la lecture de livres, même de la parole de Dieu. Hein, mais notre vocabulaire vraiment change plus on lit des livres et surtout des livres pépites.
Puis ça nous rend crédibles quand on parle à quelqu'un, qu'on peut juste faire ressurgir quelque chose de nos lectures, etc., et qui va alimenter la conversation. Et on peut être les propos d'un auteur, d'une autorité dans le domaine, qui nous rend tout de suite, c'est plus juste l'avis d'un tel, c'est l'avis d'un tel, mais argumenté avec un auteur, une autorité dans le domaine.
C'est vrai qu'il y a parfois des points doctrinaux, des sujets théologiques sur lesquels on a des positions. Et peut-être que ces positions sont juste héritées de ce qu'on nous a dit. Mais le fait de lire des commentaires bibliques sérieux, des auteurs qui ont étudié, vient nous donner des arguments, non seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour l'évangélisation, la défense de l'évangile, mais aussi sur des positions doctrinales, qu'elles soient primaires, secondaires, etc. Donc, tellement de bénéfices. Je pense aussi à l'aspect formation. Très souvent, vous savez, on pense parfois que les pasteurs, ils savent répondre à toutes les questions théologiques, mais presque systématiquement, chaque fois qu'on me pose une question, en réalité, je retourne dans des ouvrages de référence, comme des livres de théologie systématique ou des commentaires sérieux, pour répondre, pour aussi enrichir les messages qu'on apporte. Pour vous donner un exemple, on est en ce moment sur une série de sermons qu'on apporte dans notre église qui est basée sur l'Épître aux Éphésiens. Bien, en lançant cette série, j'ai communiqué aux autres prédicateurs, évidemment, l'objectif de la série, mais aussi des titres d'ouvrages, de références, des commentaires sur lesquels on allait s'appuyer pour l'étude de l'Épître aux Éphésiens, par exemple. Alors, on ne prêche pas des livres, on prêche la Bible, mais les livres sont là comme des éclairages précieux au niveau des contextes, des auteurs, des destinataires, de l'interprétation. Et je crois que se priver de cela est devenu presque inenvisageable à l'époque dans laquelle nous vivons.
Puis je pense aussi à cette bénéfice d'augmentation de la confiance en soi. Un frère me partageait il y a quelques temps son problème avec la lecture, sa difficulté, le fait qu'il devait lire peut-être même 10 fois, jusqu'à 10 fois, une phrase pour essayer de la comprendre. Et au terme de ces 10 lectures, ben, il n'était même pas sûr d'avoir bien compris tout ce qu'il lisait, etc. Et donc la lecture, ça le rebutait tellement qu'il se dit plus jamais je plonge mes yeux dans des livres vraiment chrétiens, etc. Et je l'encourageais justement avec le témoignage d'un autre frère qui lui aussi a décroché de l'école, qui avait cette difficulté avec la lecture, mais qui après coup s'est rendu compte du degré indispensable de lire et a commencé à le faire, à se forcer un peu au début, à surmonter les difficultés, à surmonter les mots un peu compliqués qu'on ne comprend pas et se dire « c'est pas grave, si je ne comprends pas tous les mots de la phrase, tant que je comprends l'idée ». Et petit à petit, il a commencé à prendre goût à la lecture, si bien que c'est lui-même maintenant qui nous recommande des lectures. Et donc je crois qu'il y a vraiment cette dimension où il faut se dire « oui, démarrer la lecture quand on n'a pas facile, quand on bug, comme on dit, sur certains mots, quand on ne comprend pas toute la phrase ou qu'on doit se relire des dizaines de fois, c'est pas évident, mais allons au-delà de cette difficulté. Prenons cette habitude de se dire il y a quelque chose à ressortir de cette habitude. C'est pas au hasard si les plus grands hommes la conseillent. C'est pas au hasard si Dieu nous le demande, même de lire simplement la parole de Dieu, même si ici, l'objectif, c'est de lire des lectures pépites, mais allons au-delà de la difficulté. C'est ça le message.
On est appelé à réussir notre vie. Dieu nous donne des armes pour ça, qui sont en réalité résumées dans la méthode RMV. Alors, pourquoi s'en priver? C'est juste là. Et je crois que la lecture d'auteurs chrétiens en fait partie. Donc maintenant, on va nuancer très fort. Et c'est indispensable, parce que pour deux raisons, finalement. Première raison, c'est qu'un livre écrit par un croyant, aussi brillant soit-il, reste un livre écrit par un pécheur. Alors, ça signifie que quand tu lis un livre écrit par un pécheur, ben, c'est un pécheur qui lit un pécheur. Et le fait d'être habité du Saint-Esprit ne signifie pas que tout ce que dit un auteur chrétien soit correct. C'est vrai aussi pour les prédicateurs. On doit vraiment faire preuve d'esprit critique. En résumé, un livre reste un livre, c'est pas la Bible. Okay, c'est pas normatif, c'est pas autoritaire pour notre foi. Et il faut garder un esprit critique et tout examiner à la lumière des Écritures. Et puis, on peut ne pas lire ou prêter foi à tout ce qui se dit chrétien. On n'a déjà qu'un temps limité, donc autant juste être rentable. Les frères, je ne sais pas si vous avez ici peut-être des noms à conseiller, des auteurs à conseiller à nos auditeurs.
Je crois qu'il y a des auteurs avec lesquels on est presque sûr de ne pas se tromper. Donc on peut lire pratiquement tout ce qu'ils ont écrit, tout en tenant compte de ce que tu viens de dire, bien nuancé, garde un esprit critique, ce n'est pas la Bible. Mais je sais que récemment, ils se sont employés à regrouper tous les écrits de John Piper, qui est un auteur que je lis beaucoup. On peut citer Don Carson, Matt Chandler, Francis Chan, John MacArthur, N.T. Wright, John Stott, R.C. Sproul, Kevin DeYoung pour les auteurs plus récents, J. Packer, C.S. Lewis, évidemment, Tim Keller, qui est un de mes préférés, David Platt, énormément d'auteurs je veux dire, sur lesquels on peut s'appuyer, on peut lire pratiquement tout ce qu'ils ont écrit en vrai.
Puis il y a aussi des maisons d'édition qui sont assez fiables. Pour sur ce que tu disais, par exemple la Maison de la Bible, Excelsis, Cruciforme, BLF Édition également.
Ouais, c'est ça. Ben voilà, on va en plus de ça vous donner une petite liste dans la description de ce podcast d'auteurs et peut-être d'ouvrages indispensables si vous avez vraiment envie de faire grandir votre connaissance de la parole.
Non, ce qu'on entend souvent, c'est j'aime pas lire. C'est ce qu'on me dit très très souvent depuis qu'on a lancé la méthode RMV. J'ai un problème parce que moi, lire, c'est pas mon truc, j'aime pas lire. Ou bien j'aime l'idée de lire, parce que tout le monde aime l'idée de lire, et il y a beaucoup de gens qui achètent des livres sans jamais les lire. Mais quand arrive le moment de s'asseoir, d'ouvrir un livre, de s'y mettre vraiment, eh bien, on a vraiment beaucoup de mal à rester concentré. Certains doivent lire plusieurs fois la même page. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre d'excuses.
Oui, la semaine passée, une personne me confiait sa difficulté à lire et son choix en fait, délibéré de dire « maintenant j'arrête définitivement d'essayer parce que c'est trop dur pour moi ». Lorsque je lis, je bute sur les mots, je dois lire jusqu'à 10 fois la même ligne pour essayer de la comprendre et au final, je ne suis même pas sûr de bien l'avoir comprise. Il y a vraiment comme cette grosse tension entre la personne et le livre, et je le rencontrais également lorsque j'étais professeur de français. Et les gens se disent, ok, je rencontre une difficulté, je ne comprends pas tout ce que je lis, donc j'abandonne, c'est fini. Comme si c'était une fatalité, comme s'il n'y avait pas de possibilité d'amélioration, de progression, que c'était juste réservé à une élite en fait, intellectuelle de pouvoir lire, de comprendre et de prendre goût à cela, alors qu'au final c'est juste accessible à tout le monde, mais il faut s'en donner le moyen. Et là on revient à justement ce moyen qu'on vous offre, c'est-à-dire la méthode RNV, c'est de prendre juste quelques minutes par jour afin que vous puissiez plonger vos regards dans un bon livre qui va vous nourrir. Alors peut-être que votre rythme de lecture ne sera pas le même que votre voisin, mais ça, on s'en fiche. L'important, c'est que vous puissiez être béni, que vous puissiez être nourri de cette lecture et que vous puissiez comprendre. Alors si c'est une page par jour, mais gloire à Dieu, c'est une page et on commencera comme ça. Mais n'abandonnez pas, surtout pas, considérez tous les bénéfices d'une bonne lecture dans votre vie chrétienne.
Tu sais, de base, je suis quelqu'un qui a vraiment du mal avec la lecture. J'avais dur à aimer lire et j'avais même dur aussi surtout à me concentrer quand je prenais la peine d'ouvrir un livre. Mais c'est pas pour autant que je me suis laissé abattre et que je me suis dit ben, « j'aime pas lire, j'ai du mal à me concentrer, donc je vais juste pas lire du tout dans ma vie ». J'ai dû me forcer, j'ai dû commencer à être attentionnel avec ça, à prendre un livre, un bon livre, un livre pépite, à l'ouvrir, à le lire. Et c'est vrai qu'au début, je mettais peut-être 10 minutes à lire une page parce que j'avais dur à me concentrer. Mes pensées allaient toujours ailleurs et je mettais du temps. Mais au fur et à mesure de se discipliner et de se dire « Allez, je vais le faire parce que c'est vraiment bon pour moi, j'en ai vraiment besoin », eh bien, en fait, j'ai commencé à trouver de plus en plus un réel plaisir à lire des lectures pépites. J'ai trouvé une vraie bénédiction, une vraie édification pour mon âme, au point que j'en arrivais même à souvent partager des lectures, partager des extraits de lectures que j'avais lus à mes frères, à mes sœurs, tout ça, à mes amis, en leur disant « c'est trop bon, il faut que je te partage cette pensée-là ». Et aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir, une joie à chaque fois que j'ouvre un livre. Alors parfois c'est difficile, parfois je retombe dans mes travers, mais le fait de persévérer, ben, ça m'a vraiment permis de passer de quelqu'un qui aimait pas lire, qui trouvait pas un plaisir à lire, à quelqu'un qui non seulement trouve une vraie joie à la lecture de livres pépites, mais qui en plus de ça en ressort béni, grandi, édifié, ma connaissance qui grandit, comme tu l'as souligné, cette crédibilité. Quand tu parles à quelqu'un, quand tu encourages quelqu'un sur un sujet, en fait, ça m'a vraiment permis de grandir dans plein d'aspects de ma vie.
Je crois que lorsqu'on ne prend pas la peine de lire, on sait très bien qu'on passe à côté de plein de choses incroyables. On passe véritablement à côté d'une mine d'or. Je pensais justement à cette connaissance qui a monté son agence immobilière et qui est partie de rien du tout. Et partagé dans une vidéo que il n'y a pas de secret en fait. Si tu veux des résultats différents, ben, ne t'attends pas à faire les mêmes choses que tout le monde et avoir des résultats différents. Mais fais ce que personne n'est prêt à faire pour réussir. Et donc lui, il s'est donné les moyens de réussir en travaillant beaucoup plus, 12 à 13 heures par jour, pour que son entreprise, son agence immobilière puisse fonctionner. Je crois que c'est totalement la même chose avec la vie chrétienne et l'impact qu'on veut que Dieu ait à travers nos vies autour de nous. Et donc on a envie de vous donner des conseils pour prendre plaisir à la lecture. Le premier, ça pourrait simplement être arrêter de vous dire que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas lire. Et pensez à tout ce qu'on vient de dire un peu plus tôt. Avant d'être quelqu'un qui n'aime pas lire, vous êtes un membre du corps du Christ qui a besoin des autres pour grandir dans sa foi. Puis, en second lieu, suivez scrupuleusement un plan. Par exemple, la méthode RMV, c'est juste une idée. Tu lis tes 5 minutes, tes 10 minutes, juste un livre, une page, deux pages. Mais l'important, c'est vraiment de les comprendre. C'est vraiment de retenir et même de digérer ce que tu viens de lire. C'est donc pas la quantité qui va primer, mais c'est la régularité. Et vous allez voir que vous allez vous surprendre à avoir envie de lire plus longtemps. Vous verrez. Troisièmement, l'environnement. Rendez le moment de lecture confortable, agréable, vraiment exempt de toute distraction. Vous aimez bien lire avec un café, bien assis, sur votre canapé avec un crayon, un carnet. Ok, mais surtout, mettez vos écrans en dehors de votre portée. Donc un moment calme, c'est par exemple le matin. Et c'est pour ça qu'on recommande RMV le matin. Quatrièmement, partagez vos révélations, ce que vous avez retiré de votre lecture, comme disait Alessio tout à l'heure, avec les gens qui sont autour de vous. Waouh, c'est trop bon ce que j'ai lu, ben faites-en bénéficier d'autres. Et puis, dernièrement, lisez peut-être un livre qui traite d'un sujet d'abord qui vous parle, qui vous challenge, qui vous motive. Peut-être d'abord un livre simple, court, c'est beaucoup plus motivant. Sautez tout ce qui est préface, qui est remerciement, témoignage, et allez directement à l'essentiel, pour après peut-être revenir dessus par la suite. Donc ce sont de simples conseils pratiques. C'est pas, bien sûr, pas une liste exhaustive, mais vous en découvrirez peut-être plein d'autres en lisant d'autres ouvrages, justement, ou d'autres livres. Mais vraiment, des conseils qui vont vous aider à pouvoir bénéficier des dons que Dieu a donnés à son Église en tout temps, en toute langue et en toute nation.
Et donc, c'est pas au hasard si on a appelé cette étape l'étape de la lecture pépite. Pépite qui fait référence à la notion de précieux, mais pépite qui fait surtout référence aux pépites d'or, la recherche de l'or. Vous savez, pour trouver de l'or, il y a tout un procédé long et détaillé. Il faut beaucoup de patience et d'efforts pour trouver de l'or. Et parfois, malgré nos efforts, on ne parvient pas à en trouver. Et en fait, c'est la même chose avec la lecture. Parfois, tu vas lire un livre, tu vas lire une pépite et on n'est pas spécifiquement touché ou béni par ce que tu vas lire. Mais dès que tu tombes sur la pépite, dès que tu trouves cette parole d'or, là, ça change ta vie. Là, tu te dis que ça en a valu la peine et tu deviens véritablement riche. Et tu n'as qu'une envie, c'est d'aller le dire à tout le monde que tu as enfin trouvé de l'or. Mais quand tu lis une vraie pépite, ça t'enrichit véritablement et t'en veux plus, tu veux le partager aux autres.
Après, c'est vrai, on ne trouve pas de l'or partout. Et ça ne sert à rien d'aller chercher des pépites d'or dans une mine de charbon. Donc choisissez bien vos lectures, choisissez bien vos auteurs et prenez le temps de chercher les pépites là où elles se trouvent. C'était Réussir ma vie. Merci pour votre écoute. On vous dit à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.